Donc le titre aujourd'hui, si on donne, doit donner un titre, c'est l'automne, l'automne et son alimentation. Mais ce n'est pas que l'alimentation. Il faut quand même savoir, pouvoir expliquer ce qu'est l'automne. Alors, bon, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous avez eu un papier, là, avec des couleurs. Et vous pouvez voir déjà que l'automne, là, je vous ai fait un autre schéma que celui-là. Et l'automne, c'est une saison dans laquelle on est actuellement. Hein. Et l'automne, c'est les dates de l'automne. Je vais vous donner des dates qui ne sont pas les mêmes que celles du calendrier. Donc déjà, ça fausse un peu beaucoup de choses. Alors, je vais faire un cercle comme vous avez. Et vous allez donc regarder, on va pouvoir regarder exactement les dates des saisons, parce que c'est important, il n'y a pas que l'automne dans une année. Donc on va commencer par le début de l'année, c'est-à-dire le printemps. Donc le printemps, mais enfin on parlera surtout de l'automne. Le printemps débute le 5 février. Le 5-2, on met 5-2. Ce sont des saisons solaires. L'été va débuter le 6 mai. L'automne va débuter le 7 novembre. Le 6 ou 7 août. Donc on va mettre le 7 août. Et l'hiver débutera le 7 novembre. Et l'hiver le 7-11. Alors ça, ce sont les saisons solaires, c'est-à-dire ce sont les véritables saisons qui sont liées au mouvement du soleil. Donc on a 4 saisons, et pour les saisons, on en a 5. On a 5 saisons, parce que entre toutes ces saisons, pour accéder à une autre saison, eh bien, pour accéder à une saison, il y a une petite période qui est une période de 18 jours. Et cette période de 18 jours, elle précède chaque changement de saison. Donc on va mettre cette petite période avec un petit quartier. Voilà. Donc cette période, on l'appelle la période intersaisonnière. Et c'est une période qui dure 18 jours. Voilà. Cette période, entre autres, actuellement, là, parce que ça sera quand même intéressant de voir à quel moment elle débute, elle débute bientôt, elle débute le 20. Le 20 octobre. Oula, c'est trop. Elle débute le 20 octobre. Donc c'est dans 10 jours. Et c'est une période de 18 jours qui précède donc les changements de saison, qui nous permet d'accéder à la saison suivante. Car à chaque saison, il y a un groupe d'organes qui va être dominant et qui va être, ce groupe d'organes va se refaire une santé à une saison bien précise, et chaque saison aura un groupe d'organes différent. Donc, je vais vous mettre l'ensemble et puis ensuite on passera directement à l'automne. Alors, pour le printemps, c'est le foie. Le foie et bien sûr la vésicule biliaire. Pour l'été, c'est le cœur. Pour l'automne, c'est le poumon. Avec le poumon, c'est aussi le gros intestin. Donc, je vais le mettre avec ses initiales GI, gros intestin. Et l'hiver, c'est le rein. qui est la défi. Donc vous avez tout ça sur le petit papier. Et dans l'intersaison, c'est l'estomac qui est en rate pancréas. Alors on parle toujours de rate en médecine chinoise, on parle toujours de rate parce que les Chinois ne parlaient jamais du pancréas, mais on inclut les deux. Hein, c'est le rate pancréas. Voilà, c'est la période d'intersaison. Donc rate pancréas, c'est quatre périodes. Donc je vais mettre rate pancréas et estomac. Hein. Donc voilà les groupes d'organes. Pourquoi les organes comme ça se ressemblent à une saison particulière? Et bien là, on entre dans quelque chose, les Chinois avaient remarqué au fil des millénaires, parce que ça, c'est quand même quelque chose qu'ils ont mis en place environ 600 à 1000 avant Jésus-Christ. Donc, c'est quand même pas d'aujourd'hui. Mais c'était des observations qui dataient déjà de plusieurs milliers d'années. Donc, on a 3, 4, 5 000 ans derrière nous hein, d'observations. Et ces observations, elles étaient basées sur une chose très précise, car les Chinois étaient très observateurs du ciel. Et en particulier des étoiles, des groupes d'étoiles. Ils avaient remarqué qu'à certaines périodes de l'année, passaient des groupes d'étoiles, toujours les mêmes, et ces groupes d'étoiles, ils avaient remarqué qu'ils agissaient d'une façon particulière, dans certaines périodes, donc qu'on appelle les saisons, sur certains organes. Et on est toujours dans ce système-là, bien que les groupes d'étoiles soient légèrement décalés, puisque ceux d'il y a 2000-3000 ans sont... C'est un décalage par rapport à maintenant. Et c'est ce qui fait que la tranche de ciel, si vous voulez, qui passe au moment d'une saison, va agir directement sur un organe. Et à l'automne, la tranche de ciel agit directement sur le poumon et le gros intestin. Voilà. Donc, et l'automne solaire, donc, débute le 7 août. Donc, on est en ce moment à la fin de cette période d'automne. Donc, le poumon et le gros intestin, ça va être donc de quoi on va parler. Et ce sont donc deux organes importants qui dans notre corps, régissent quand même tout un tas de fonctions. Donc, je vais un peu les rappeler, ces fonctions. Et à partir de là, donc ce schéma, je voulais resituer, bon, vous l'avez déjà, hein, et on va le mettre, voilà, je vais représenter l'automne un peu d'une autre façon, je vais le représenter à ce niveau-là, donc je vais mettre le poumon ici, hein, poumon et gros intestin, voilà. Ce cycle-là, que l'on appelle le cycle des cinq éléments, c'était une théorie il y a 2500 ans, c'est toujours quelque chose d'actualité, donc ce n'est plus vraiment une théorie. Donc on a ici le foie, donc avec le printemps, le cœur avec l'été, et ici on va mettre un rate pancréas. Pancréas, c'est l'estomac. Hein. Et le rein, bien sûr, à ce niveau-là. Donc vous voyez qu'il y a une circulation qui se fait, je vais venir des flèches, il y a une circulation qui va se faire d'un organe à l'autre et qui va suivre les saisons. Et le poumon et le gros intestin vont se retrouver donc après l'intersaison hein, qui a été mise ici, bon, pour les pas de. Et ce sont donc deux organes importants. Alors à quoi sert le poumon? Le poumon, bon, tout le monde sait que c'est l'organe de la respiration. Hein, je pense, hein, vous pensez bien que c'est l'organe de la respiration. C'est l'organe de la respiration, mais il fait beaucoup plus que ça. Pour les Chinois, le poumon, bon, il va capter l'air, rejeter l'air qui a déjà été utilisé donc pour qu'il soit nettoyé, etc. Mais également, le poumon, il a un autre rôle, enfin, plusieurs autres rôles, comme tous les organes en médecine chinoise. Cet autre rôle, c'est avant tout de recevoir l'énergie des aliments. Il reçoit l'énergie des aliments. Donc il reçoit l'énergie des aliments. Cette énergie, quand on mange, on va manger, les aliments vont descendre dans l'estomac. Et de l'estomac, il va y avoir tout un brassage au niveau de l'intestin grêle, le rate, l'estomac, pancréas, etc. Et ce brassage va permettre de sortir de l'énergie de cet endroit-là, hein, que l'on appelle le foyer moyen. Il va sortir de l'énergie et cette énergie va monter vers les poumons. Donc quand on a un problème de poumon, quand on a une fragilité des voies respiratoires, la première cause, elle est alimentaire. Elle est alimentaire. On peut toujours dire, l'air qu'on respire n'est pas pur, etc. Bon, ça c'est une cause, mais qui est beaucoup moins fréquente que la cause alimentaire. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on tient compte beaucoup de la pollution. On dit, bon, les maladies respiratoires sont liées à la pollution. C'est avant tout, les maladies respiratoires viennent de l'estomac et de rate pancréas. Et vous voyez que ce sont de rate estomac pancréas qui sont juste avant le membre intestin. Et donc, quand ils ne sont pas en bon état, ces organes-là, ils ne peuvent pas alimenter en énergie le poumon gros intestin. Parce que quand vous mangez et que ces organes ont du mal à bien digérer, etc., ils ne peuvent pas faire monter l'énergie au niveau de la poitrine. Hein, donc, c'est cette énergie de la poitrine, qu'on appelle le chi de la poitrine, et cette énergie-là, à ce moment-là, elle va être insuffisante. La première chose, quand on a une faiblesse des poumons, c'est qu'on a aussi un trouble de la voix. C'est-à-dire que le poumon, c'est lui qui va nous donner la force de la voix. Si notre voix s'éteint, ça veut dire que le poumon est très faible. Et à ce moment-là, il va falloir aller chercher l'énergie là où elle est. Et il va falloir commencer peut-être par s'alimenter mieux. C'est pour ça qu'on est toujours vigilant sur l'alimentation. Alors, ça, c'est le premier rôle du poumon, c'est de recevoir cette énergie des aliments. Bien sûr, aussi de l'air, hein, puisque l'air, quand même, il est important pour le poumon. Mais le poumon, il ne nous sert pas qu'à respirer. Il nous sert aussi à faire descendre cette énergie vers le bas. Le poumon nous aide à faire descendre cette énergie vers le bas, c'est-à-dire à aller aussi alimenter un organe en particulier, c'est le gros intestin. Et une personne qui est constipée de toujours, c'est une personne qui a aussi une faiblesse de l'énergie du poumon. C'est-à-dire que le gros intestin n'arrive pas à recevoir cette énergie du poumon. Le poumon, il nous sert aussi à autre chose, c'est lui qui va assurer la bonne diffusion au niveau de la peau des liquides. Si vous avez une peau sèche, c'est que les poumons sont faibles et qu'ils n'assurent pas cette diffusion des liquides à la surface de la peau et sous la peau. On dit même souvent que les poumons, en fait, ils envoient comme une vapeur d'eau au niveau de la couche, juste immédiatement sous la première couche de la peau, hein, comme une vapeur d'eau qui va circuler partout. Et cette vapeur d'eau va donc alimenter la peau. Elle va nous aider donc à avoir une peau en très bon état. Et toutes les pathologies de peau, tout ce qui nous arrive au niveau de la peau, l'origine, c'est poumon, gros intestin. Que ce soit l'eczéma, que ce soit, enfin, tout ce que vous voulez, psoriasis, enfin bon, toutes les pathologies de peau, ça vient de poumons gros intestins. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Tout à l'heure, j'ai eu un coup de fil pour vous donner un exemple de quelqu'un qui me dit que peut-on faire lorsque, parce que vous allez voir un bébé de 3 mois couvert d'eczéma depuis qu'il avait 15 jours. Et couvert d'eczéma, il me dit, il est couvert de la tête aux pieds. Et les parents ne savent plus quoi faire. Ils ont vu tous les dermatologues de la région. Et ils sont vraiment perdus, ils ne savent plus quoi faire. L'enfant ne dort pas, mais eux non plus. Car, évidemment, ça gratte, ça pique, ça. Voilà. Et bien, c'est un problème de poumon gros intestin. Et si on ne passe pas par là, on aura beaucoup de mal à en venir à bout. Et c'est donc un problème avant tout alimentaire. La première des choses qu'on fait dans ce cas-là, c'est un bébé qui a un eczéma comme ça, on lui supprime le lait. Ça, c'est quelque chose d'important, parce qu'il y a vraiment une intolérance aux protéines du lait. Bon, ça, c'est quelque chose qu'après, on va faire des traitements en acupuncture, etc. Mais on va traiter le poumon et nettoyer le gros intestin. Voilà. C'est le grand principe, c'est ça. Donc, vous voyez, le poumon, il a un rôle très important au niveau de la peau. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier dans la pratique courante. Mais vous avez bien entendu parler de quelqu'un qui fait de l'eczéma, un jour ou l'autre, qui fait de l'asthme. Et bien voilà, c'est le lien entre les deux. C'est bien le poumon. Hein, c'est le poumon. Et quand il fait plus d'asthme, souvent, il refait de l'eczéma. L'eczéma, c'est l'apparition à la surface d'une pathologie plus profonde. Il vaut mieux, à la limite, faire de l'eczéma que de l'asthme. Car l'asthme, c'est beaucoup plus profond. Alors, quand quelqu'un qui a de l'eczéma se met à faire de l'asthme, ça veut dire que sa maladie devient plus profonde, donc plus difficile à traiter. Vous voyez ? Donc, elle n'a pas été prise par le bon bout et, hop, ça s'enfonce. Il est bien préférable que lorsqu'on fait de l'asthme, on se met à faire de l'eczéma, ça veut dire qu'on est en train de guérir à la limite. Vous voyez, c'est important. Tout ce qui apparaît en surface, c'est aussi une forme de détoxication de la profondeur. Alors, donc c'est pour expliquer un peu le rôle du poumon et du gros intestin. Donc le poumon, il nous donne aussi une énergie extrêmement forte, hein, qu'on appelle le qi. Donc, quand on fait du qigong, on est habitué à entendre parler du qi. Le qi, c'est l'énergie. Eh bien, le poumon, c'est l'organe dans le corps qui va permettre d'avoir une énergie forte à la fois dans tous les vaisseaux, mais aussi le long des trajets d'énergie qu'on appelle les méridiens. Ce trajet, les méridiens qui circulent à la surface du corps. Et donc, cette énergie, elle nous vient des poumons. C'est les poumons qui vont faire que cette énergie circule. Vous voyez, c'est quand même, le poumon a un rôle extrêmement important dans notre organisme, un rôle qu'on a du mal à imaginer en médecine occidentale, mais qui est très puissant. Il ne faut pas passer à côté de ce rôle. Et vous voyez, c'est un rôle qui est quand même... C'est un peu surprenant quelquefois, parce que quand on dit bah, le poumon c'est lui qui humidifie la peau, ça fait un peu bizarre quand même, mais c'est bien ça. Et si vous avez une peau sèche, c'est les poumons. Hein? Voilà. Et je sais par expérience que beaucoup de personnes ont la peau sèche. Hein? C'est pas spécialement lié à l'eau qu'on utilise. L'eau va aggraver cette peau sèche, mais ce n'est pas la cause. La cause, c'est le poumon qui n'est pas alimenté correctement par estomac, rate, pancréas. Je vais vous le répéter ça, parce qu'il faut faire rentrer dans la tête. Vous voyez ? C'est-à-dire que ce que l'on avale, ça descend au niveau estomac, rate, pancréas, et l'énergie qui est transformée, enfin, cette transformation qui se fait des aliments va permettre d'avoir deux énergies qui montent et bien sûr des déchets qui vont partir. Hein? Voilà. C'est le principe, c'est tout simple. Hein? La physiologie, c'est simple. On tire l'énergie et on élimine les déchets. Hein? Notre corps, c'est ça. Hein? C'est pas autre chose. Bon, après, il y a des petits trucs en plus. Mais, hein? Alors, le gros intestin, lui, il sert à quoi avant tout ça? Le gros intestin, lui, c'est l'évacuateur. Lui, il va permettre d'évacuer. Vous voyez? Il va permettre d'évacuer, il va retenir un peu de liquide aussi, mais il va permettre d'évacuer. Surtout, c'est ce qui est le plus important au niveau du gros intestin. Donc, il faut toujours aider ce gros intestin à bien fonctionner et à être en bon état. Ça, c'est ce qui est important. Mais l'organe prioritaire, c'est le poumon. Et le poumon, donc, le poumon et le gros intestin, ce sont les organes de l'automne. Donc, on a besoin de les aider. Alors, le poumon est un organe extrêmement sensible au froid. Il n'aime pas le froid. Dans le mouvement de Qigong, je vous en parle souvent, hein, le poumon n'aime pas le froid. Et le froid au poumon, le froid, il va pénétrer par l'avant-bras en particulier. Hein. Il va pénétrer par l'avant-bras et c'est pour ça qu'il faut vraiment toujours se protéger les avant-bras quand il commence à faire froid. Là, on est dans ce cadre en ce moment. Hein. On peut très bien attraper froid. Et si on attrape froid, eh bien, il faut à ce moment-là bien faire sortir ce froid des poumons. Alors, comment on fait? Là, c'est pas compliqué, mais. Le méridien du poumon et le méridien du gros intestin, c'est pas facile d'avoir les deux ensemble.
Bon, attendez.
Ah oui, non, c'est normal.
Là, comme ça. Le méridien du poumon et le méridien du gros intestin passe sur l'avant-bras, c'est pouce et index, il part du pouce et l'index, passe sur l'avant-bras, et ils vont donc pénétrer, ils vont monter d'une façon régulière. Et à partir du coude, le méridien du poumon en particulier va pénétrer en profondeur et aller directement à l'organe. Et le froid qu'on peut avoir sur l'avant-bras va pénétrer à ce niveau-là. Et d'où l'importance quand on attrape froid. Vous savez, quand vous, par exemple ce soir, vous avez discuté 10 minutes dehors, là, hein, vous avez discuté 10 minutes dehors, et puis vous direz, oh, j'ai pas chaud. C'est un mouvement qu'on fait spontanément. Hein, voilà. Eh bien, n'hésitez pas à vous frotter parce que ça vous empêchera demain d'avoir le nez qui coule. Et de faire un rhume, puis si le poumon n'est pas en bonne santé, bien, vous allez tousser pendant 3 mois ou 6 mois. Hein, voilà. Ça, c'est quelque chose de très facile à empêcher. Hein, il suffit de se frotter bien. Hein, donc là, en frottant, on stimule la chaleur en particulier du gros intestin, et donc on va permettre l'équilibre de ces deux organes. Donc on est bien dans quelque chose, dans un ensemble d'équilibre qu'il est important de garder. Oui. Donc poumon, gros intestin, c'est essentiel pour la saison. Hein. Et ça, ce sont donc deux organes qui se rechargent par l'influence du ciel en ce moment. Donc on a vraiment besoin de les aider. Et c'est pour ça que, bon, on va détailler un petit peu les aliments pour que, le type d'aliments, pour que vraiment déjà par l'alimentation, il y ait déjà un changement en nous. Vous voyez? Et cette alimentation, elle n'est pas très compliquée. C'est normal, mais c'est pas toujours. Oui. Voilà. Alors, cette alimentation, elle est quand même importante parce que le premier élément, en fait, qu'il faut bien retenir, c'est la saveur. La saveur correspondant à poumon et gros intestin. La saveur, c'est le piquant. C'est-à-dire qu'on a besoin d'aliments piquants. Quelque chose qui pique. Alors, il y a plein d'aliments piquants. Il y a le poivre, il y a le piment, il y a l'ail, la ciboulette, même le persil est un piquant. Et il y en a deux qui sont très intéressants, en particulier un, c'est le gingembre et la menthe. Le gingembre et la menthe. Alors la menthe, il ne faut pas non plus s'en priver. Hein. C'est vrai que les homéopathes ne sont pas d'accord avec la menthe, mais on ne sait pas trop pourquoi. Vous voyez, mais la menthe, il ne faut pas s'en priver, c'est un bon assaisonnement quand même. Et le gingembre en particulier est très utile. Donc quelqu'un qui a des problèmes respiratoires, qui a déjà commencé à faire des rhumes depuis 15 jours, 3 semaines, un mois, eh bien il faut qu'il commence déjà par prendre du piquant. Car le piquant va stimuler directement le poumon. Alors, comment on prend ces saveurs-là? Comment on les prend? Eh bien, il faut les mettre dans la bouche et les laisser le plus longtemps possible dans la bouche pour que ça pénètre directement par les veines de la langue. C'est pas bon? Si, c'est bon. Et si. Et on n'en prend pas un gros morceau comme ça. Hein. On prend la valeur de la moitié de l'ongle de mon petit doigt. Oui. Et quand c'est du gingembre, en particulier le gingembre confit, très intéressant, et bien à ce moment-là, on en prend très peu, mais on le mastique. Et on essaie de le garder le plus longtemps possible dans la bouche pour que ça pénètre bien par les veines de la langue. Un peu comme un produit homéopathique. Hein, voilà. Parce que ça va tout de suite aller stimuler, aider l'énergie du poumon. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Alors à quelle heure ça se prend? Quelle heure ça se prend? Ça se prend à 3h du matin. Voilà. Et 3h du matin, c'est l'heure du poumon. Alors, on va faire mieux. Hein, on va faire mieux. Faut le prendre en fin de matinée. Ou en milieu d'après-midi. Voilà. Fin de matinée au milieu d'après-midi. Et le fait d'absorber du piquant à ce moment-là va agir sur tout ce que je vous ai dit à propos du poumon. C'est-à-dire que la respiration sera meilleure, mais également la peau. Le poumon va être... Le gros intestin va lui avoir aussi plus d'énergie. Donc si une constipation, ça va vous aider. Hein, enfin, tout ce qui est en lien avec le poumon. Une chose aussi que je vous ai pas dit, je n'ai pas pensé tout à l'heure, mais le poumon, psychologiquement, c'est l'organe du chagrin. C'est-à-dire que quand vous avez un chagrin, quand vous avez un deuil, quand vous avez une... Vous voyez, il y a 36 deuils, il y a des deuils, il y en a un certain nombre. Vous avez le deuil de quelqu'un, mais aussi les ruptures dans une vie. Hein, une rupture dans un couple, une rupture de contrat de travail, une rupture avec un enfant, une rupture enfin, avec un parent, avec un voisin. Avec, bon, toute rupture tape tout de suite sur le poumon. Oui, c'est ça, les ruptures, les changements, les deuils, etc. On en est imprégné quand même, hein, de tous, hein, je pense que tout le monde en est un peu pareil. Et bien ça affaiblit le poumon. Et très souvent, après un deuil, en particulier dans les couples, après un deuil, très souvent, on fait une pneumopathie. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très sévère. Donc, dans ces cas-là, on peut très bien éviter, bon, s'il y a la pneumopathie, ben, on va la traiter, bien sûr, mais dès qu'il y a une rupture, dès qu'il y a un deuil, dès qu'il y a quelque chose qui se manifeste comme ça, le piquant. du gingembre. Alors pourquoi je suis favorable au gingembre confit? Parce qu'à ce moment-là, il y a du piquant, mais il y a aussi du sucre, hein, avec le gingembre confit. Eh bien, c'est parce que le...
On va essayer de décaler le là-bas. On va décaler de l'autre côté des pays. Je suis embêté. Ah mais oui, mais pas trop, j'ai essayé de la piquer.
Attends, je vais faire ça.
C'est rare quand on n'a pas quand même des défauts techniques, hein, c'est normal. Mais ça va fonctionner. Donc vous avez vu, j'ai rajouté le sucré, parce que le gingembre confit, c'est du piquant et du sucré. Et donc le sucré, là, il va aussi alimenter le poumon. Vous voyez, c'est quand même intéressant. Les Chinois nous disent quelque chose que j'aime beaucoup, c'est très imagé ce qu'ils racontent, les Chinois, dans les livres. Et dans ce système-là de la théorie des cinq éléments, mais ils nous disent que Rat Pancréas, là, c'est la maman du poumon et du gros intestin. Et que fait une maman? Elle alimente son enfant. Voilà. Par contre, le rein, là, c'est le fils. Vous voyez? La maman, c'est le rat pancréas. Le poumon et le gros intestin, c'est l'empereur. Vous voyez? Et donc là, c'est la maman de l'empereur. Là, c'est l'empereur. Et là, c'est le fils de l'empereur. Donc le fils, il est alimenté par l'empereur. C'est l'empereur qui va l'aider. Donc voilà, ce sont des images. Mais dans les textes, vous trouvez ça, dans les livres, ça veut dire quoi, ça? L'empereur n'alimente pas son fils, enfin, vous trouvez des choses comme ça. Après, il faut les comprendre. Donc là, en l'occurrence, c'est la saveur sucrée qui va aider le poumon. Donc, cette saveur sucrée et cette saveur piquante, c'est très intéressant dans le gingembre confit. Voilà pourquoi moi je prescris souvent le gingembre confit. Voilà les ordonnances que je fais. Ce n'est pas remboursé par la sécu. Hein? Voilà. Je signale quand même, parce que on pourrait s'étonner à ce moment. Donc, cette alimentation-là est quand même intéressante aussi. Hein, lorsque on est atteint par une maladie, lorsqu'on est atteint donc, par une rupture, il faut savoir que c'est des choses qui sont importantes et que l'on vit tous à un moment ou à un autre. Alors, quel type d'alimentation vraiment dans l'automne pour que ces organes soient vraiment très, très forts et qu'ils ensuite nous laissent tranquilles le reste de l'année. Puisque si on recharge bien en énergie le poumon et le gros intestin à l'automne, c'est bon jusqu'à l'automne prochain, c'est-à-dire jusqu'au mois d'août, l'année prochaine. Par contre, si on ne les a pas rechargés maintenant et qu'ils sont faibles, on en a pour jusqu'à l'automne, pareil, dans cette faiblesse. Donc vous allez faire des rhumes, des bronchites, et voilà, vous aurez des gastro, parce que voilà, tout va s'en suivre. C'est-à-dire vous passerez de l'un à l'autre en permanence, c'est agréable, mais bon, on peut s'en passer quand même. Hein. Donc tout ça, si je vous raconte ça, c'est justement pour que ça ne se produise pas. Hein. Donc ça c'est quand même quelque chose qui n'est pas compliqué à faire. Donc première chose, hein, piquant, voilà, ça c'est essentiel. Alors, à cette saison, comme on a une diminution de l'énergie yang, c'est-à-dire cette énergie de l'été qu'on a habituellement, donc on a en été, c'est du yang, c'est l'énergie du ciel. à l'automne, cette énergie est diminuée. Tout le monde l'observe, on le voit en ce moment, c'est diminué. Et ce qui augmente, c'est l'énergie de la Terre qui va augmenter, hein, c'est l'énergie yin, c'est le yin et le yang. Donc le yin va commencer, il augmente petit à petit, hein, c'est sa croissance. Et le yang diminue. Et les aliments qui vont nous aider dans ce mouvement de diminution du yang et de montée du yin, eh bien, ça va être les aliments. En particulier les aliments tièdes. Si ceux qui auront les aliments, là, les natures, vous avez regardé les aliments tièdes. Alors, il y a des aliments qui ont une nature tiède, mais il faut aussi penser que on a besoin d'aliments qui ne soient pas froids au niveau de la température. Hein? C'est-à-dire que les crudités, par exemple, vous pouvez encore manger. Mais les crudités, vous les mettez dans une casserole ou dans une poêle et vous les faites chauffer à feu vif pendant 1 à 2 minutes. Hein, des carottes, des betteraves, enfin, tout ce que vous voulez, les crudités. C'est pas facile de mettre des concombres. Hein. Mais il faut éviter le plus possible, en ce moment, les aliments froids. Et là, les aliments qui sortent du frigo. Si on n'évite pas, si on utilise ces aliments qui sortent du frigo en permanence, donc crus et froids, eh bien on va diminuer, on va empêcher que le poumon se recharge, et à ce moment-là, on va avoir un certain nombre de problèmes respiratoires, digestifs, etc. Okay. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et l'excès d'aliments crus et froids, quand c'est vraiment c'est très excessif, il y a des personnes qui en prennent d'une façon trop, trop importante. Et à ce moment-là, le poumon reste faible. Hein, si ça dure pendant des années, je connais des personnes comme ça qui, pour des tas de raisons, on mangeait comme ça des aliments crus et froids parce que ben, le midi ils travaillent dans la journée, le midi ils vont pas au restaurant de l'entreprise, ils emmènent leurs aliments et les aliments froids et les crudités, si ça dure pendant des mois, voire des années, et bien non seulement le poumon va être faible, mais le poumon lui, s'il est faible, il va dire à sa maman, il faut que tu m'alimentes. Hein? Donc il va demander à un pancréas de l'alimenter. Mais au bout d'un certain temps, un pancréas va être complètement effondré. Et là, on va observer des diarrhées permanentes. Des diarrhées qui peuvent durer des mois, qui entraînent un affaiblissement, qui entraînent une fatigue importante, etc. Et ce n'est pas rare. Hein? Ça peut vous sembler étonnant. Mais bon, moi, je suis bien placé pour le voir, on voit. Hein. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et la première chose à faire, il faut supprimer complètement les aliments crus et froids. Et on fait tout chauffer. Et à ce moment-là, y compris la boisson. On chauffe à ce moment-là aussi la boisson. C'est-à-dire qu'au cours du repas, on va prendre, elle a de l'eau chaude, tout simplement. On n'a besoin que de l'eau chaude, on n'a pas besoin de mettre des tas de choses dans l'eau. Si vous voulez, vous pouvez mettre un peu de menthe ou un peu de gingembre ou des choses comme ça, mais l'essentiel, c'est l'eau chaude. Alors, il ne faut pas que ce soit brûlant non plus, hein, c'est pas la peine. Mais... On n'a pas besoin de se brûler la langue non plus. Mais ça, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace pour refaire l'énergie. L'énergie du poumon, hein, et aussi l'énergie pancréas, etc. L'eau chaude au cours d'un repas, c'est très simple, hein, c'est des choses qui sont faciles à prendre. Et c'est agréable, en plus. Parce que vous avez l'impression que boire de l'eau chaude, c'est pas grand-chose. Pas l'eau chaude du robinet. Hein, on prend pas l'eau chaude au robinet. On fait chauffer de l'eau. Alors, l'eau chaude du robinet, elle est pleine de bactéries. Pas boire l'eau chaude du robinet. L'eau chaude du robinet, elle est faite pour se laver. Pour laver les aliments, pas les aliments, les casseroles, etc. Mais pas pour boire. Donc, souvenez-vous, hein, effectivement, on doit prendre du tiède, voire du chaud. Et on ne peut pas, si on ne prend pas ce type d'aliments, on ne pourra jamais améliorer le froid qu'on peut avoir en profondeur. Quelqu'un qui a toujours froid, s'il ne prend pas ce type d'aliment, il gardera son froid. Quoi qu'il fasse, pour un être tranquille physiquement, il aura toujours froid. Il faut alimenter l'intérieur. Hein. Donc bien sûr, cette saison, puisqu'il y a une diminution du yang, il faut alimenter en aliments qui soient riches, enfin riches, très tels que le miel. Le miel, très intéressant effectivement. Et pour quelqu'un qui est extrêmement fragile, qui a un poumon en mauvais état, le miel et la gelée royale. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais ne mélangez pas les deux. C'est pas la peine de mélanger les deux. Ils vont pas trop trop bien ensemble. Il faut les prendre séparément. Et alors, on a besoin, bien sûr, d'aliments piquants, hein, ça, je vous l'ai dit ça. Alors, le piquant, au niveau de la peau, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'il ouvre les pores de la peau. Le piquant, il ouvre les pores de la peau, donc il permet à la peau de respirer en même temps. Donc ce type d'alimentation réchauffe, et en même temps favorise cette transpiration. Et en même temps, si on a une alimentation comme ça, qui nous permet d'alimenter le poumon en énergie, eh bien, on aura notre système de défense à la surface du corps qui sera très puissant. Donc on sera beaucoup moins sensible ensuite au froid, au vent, à l'humidité, etc. C'est quand même quelque chose qui est assez simple, en fait. Vous savez, quand on dit la santé est dans l'assiette, c'est très juste. Hein. Alors par contre, il faut garder un équilibre dans tout ça. C'est-à-dire que si, parce qu'il y a certaines personnes qui ont un tempérament très entier, ils disent, bon, il faut du piquant. Alors là, piquant du matin au soir. Hein? Piquant et chaud du matin au soir. Alors, si vous faites ça, vous allez tomber dans un excès. Vous voyez? Et les Chinois nous disent une chose très juste. Tout excès conduit à son contraire. Donc, si vous faites un excès d'aliments chauds et piquants, eh bien, vous allez, au lieu d'améliorer le fonctionnement du poumon et du gros intestin, vous allez déséquilibrer un peu plus. Donc la peau, par exemple, qui était sèche, deviendra encore plus sèche. Hein? Les problèmes respiratoires que vous avez augmenteront. L'intestin sera encore plus constipé, ou alors il pourra passer aussi à la diarrhée, etc. Et toutes les manifestations seront pareilles. Donc tout excès conduit à son contraire. Vous avez bien remarqué que si on travaille trop, de toute façon, il faut s'arrêter. Hein? Voilà. Mais également, si quelqu'un se repose trop, c'est pas bon. Il va falloir qu'il bouge. Donc un excès d'aliments piquants va entraîner dans l'organisme tout un tas de manifestations. Et en particulier, quand on a un type d'excès, eh bien, il va y avoir des contractures. On va avoir des contractures. C'est-à-dire que la personne va se retrouver avec des blocages articulaires qui font très mal, qui sont extrêmement brutaux. Et donc ça, et également, ces contractures vont s'accompagner aussi de douleurs des yeux. Pourquoi ? Parce que c'est le foie qui va être touché dans ces cas-là. D'accord ? Un excès d'aliments piquants va agir sur le foie. Parce qu'il y a à ce moment-là un lien entre le poumon et le foie qui va se faire. Et c'est-à-dire que le poumon va aller attaquer le foie. Le foie, c'est lui qui apporte, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a fait, quand on a vu le printemps, ben, j'ai beaucoup parlé du foie. Le foie, lui, il apporte le sang, il lui permet d'avoir une souplesse des muscles et des tendons. Donc, si le foie est attaqué, tout de suite, clac, on devient raide. Et le foie, c'est aussi lui qui assure l'énergie de l'œil. Donc voilà pourquoi quand on a un excès d'aliments piquants et chauds, c'est le foie qui prend, et donc les muscles et les tendons vont devenir durs, et ils vont faire mal. Et les yeux vont piquer, on va avoir de la conjonctivite, on va avoir des problèmes avec les yeux. Je pense que c'est agréable de voir toujours les yeux qui piquent. C'est le même mécanisme d'ailleurs dans les allergies. Les allergies, le rhume des freins, c'est le même mécanisme. Alors, les poumons peuvent aussi recevoir trop d'humidité quelquefois. Trop d'humidité, alors il y a deux possibilités pour recevoir de l'humidité. Ça peut être un excès d'humidité parce que dans la saison il y a trop d'humidité, il y a trop de pluie. Voilà. Mais ça peut être aussi l'humidité qui va provenir des aliments, qui va provenir de pancréas. Et cette humidité, ce sont des aliments gras. Hein? Quelqu'un qui mange en excès des aliments gras, des aliments chauds, gras, ça arrive, certaines personnes sont vraiment accro à une alimentation très riche, très grasse, etc. Eh bien, à ce moment-là, cette humidité en excès dans les aliments va arriver au poumon gros intestin. Et comment le poumon gros intestin va réagir ? Il va réagir en dans un premier temps en disant « ça m'intéresse pas, je renvoie ». Mais petit à petit, à force de recevoir, quand ça dure, il va se fatiguer, et dans ces cas-là, lui, il va plus pouvoir assurer la diffusion des liquides correctement, et on va se retrouver avec des mucosités dans les poumons, des mucosités dans le nez, des mucosités à la surface de la peau. Alors, c'est pas comme ça qu'on les appelle, des mucosités à la surface de la peau. Chez les ados, c'est l'acné. L'acné, donc sur le visage, sur un peu partout, l'acné, c'est un effet d'aliments gras et d'aliments riches en sucre. Et à l'heure actuelle, quand on voit l'alimentation de nos jeunes, on peut se poser des questions quand même. Hein. Il ne faut pas hésiter à leur dire, bon, ils le croient ou pas, mais ils l'entendront, et à un moment donné, ça les fera réagir quand ils sont bien embêtés avec leurs problèmes, ils disent peut-être qu'il faut que j'arrête. Hein. Donc, excès d'aliments gras et d'aliments riches en sucre va entraîner cette manifestation, en particulier de l'acné. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, mais également le nez. Le nez, quand il y a un excès d'humidité, le nez va être bouché. Il est bouché par des mucosités. C'est-à-dire c'est toujours plein. Quand c'est plein, et puis c'est de plus en plus difficile à sortir, etc. Il y a des personnes pour lesquelles ça devient chronique. Et également, bah, ils tous toujours gras. Toujours des choses à sortir. Ce sont des crachats qui remontent, ils sont toujours gênés, il y a toujours quelque chose. Vous voyez, mais parce que le poumon n'arrive plus à faire circuler ses liquides, et les liquides du poumon, ils circulent vers le bas, vers les reins et vers la vessie. Voilà. Les liquides du poumon descendent et circulent vers la vessie. Et quand le poumon n'a plus d'énergie, eh bien, il ne peut plus assurer cette descente de liquide, et donc tout va s'encombrer. On va avoir un encombrement partout. Et vous voyez que c'est encore un problème alimentaire. Et ce problème-là, qui donc vient de la rate, hein, c'est le problème que l'on voit dans une maladie, à l'heure actuelle c'est quand même assez connu, qui est une maladie grave, c'est la mucoviscidose. Mais la mucoviscidose est une maladie génétique, ça, bon, malheureusement on ne peut pas... Hein, par rapport à la maladie, c'est difficile, mais c'est la pathologie, elle vient de rate pancréas. C'est d'ailleurs un des traitements de la maladie, c'est des enzymes du pancréas. Et ça attaque le poumon. Oui. Donc on est toujours dans ce type d'aliments. Hein. Et les aliments trop humides, il faut les éviter quand même. Quand il y a un excès d'humidité. Alors comment on peut lutter contre, par l'alimentation, comment peut-on lutter contre cet excès d'humidité quand on en est atteint? Eh bien, il y a des aliments. Allez, je vais vous refaire une autre flèche. C'est une flèche qui va permettre de contrôler si, au niveau du cœur, il y a une possibilité de contrôler. C'est la gêne quand on contrôle quelqu'un. C'est pour lui permettre d'être en équilibre. Il y a deux possibilités, soit on contrôle, soit on détruit. On contrôle ou on attaque. Et si à ce niveau-là, il y a une énergie qui est bonne, à ce moment-là, on va se servir de cette énergie-là pour contrôler le poumon. C'est-à-dire qu'on va utiliser comme saveur la saveur amère. Donc l'amertume, la saveur amère. Hein. Voilà, la saveur amère. Donc cette saveur, elle est intéressante parce qu'elle va nous permettre de combattre l'excès d'humidité. Alors quels sont les aliments qu'on peut utiliser très facilement pour éviter cette saveur, pour éviter cet excès d'humidité au niveau du poumon? Eh bien, ce qu'on va utiliser, par exemple, c'est la chicorée. Alors, sans sucre. Hein? On ne prend pas de sucre en ce moment. Hein? Et les endives. Et les endives, dans ces cas-là, il faut les laisser un peu à l'air pour qu'elles deviennent un peu vertes. Qu'il y ait une partie de l'endive qui soit verte. À ce moment-là, elle retrouve un goût amer plus important. Vous avez remarqué, mesdames. Hein? C'est très facile avec ça. Alors on peut utiliser aussi, il y a le thym qui est un amer. Hein, le thym est un amer. Et alors il faut surtout, dans ces cas-là, éviter le café, le thé noir, hein, le thé noir, c'est important, et le tabac. Le tabac va augmenter cette humidité. Aussi. D'ailleurs, vous avez peut-être observé qu'en prenant beaucoup de café, par exemple, si vous prenez beaucoup de café, vous aurez une peau sèche. Et vous allez assécher le gros intestin. Vous aurez facilement une constipation. Le café, pris en excès, va constiper. Et par ailleurs, donc, pour avoir un poumon en bon état, et donc une peau en bon état, c'est agréable quand la peau est vraiment bien, pas sèche, une peau détendue, une peau qui transpire normalement, etc. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Eh bien, il y a quand même certains aliments qui sont intéressants. C'est, bon, donc je vous ai dit tout à l'heure la menthe. Le riz est un excellent aliment pour nous permettre d'avoir un poumon en bon équilibre. Et le riz, de toute façon, il est intéressant pour toutes les, pour toutes les saisons. Hein. Ça, il est toujours intéressant. J'ai aussi le réfort, le chou rave en particulier. Et des aliments qui sont encore de saison, qui peuvent nous aider bien dans ce sens-là, c'est les aubergines, le céleri, les concombres, les épinards. Dans l'oseille, c'est un acide. Donc les épinards, non, les épinards vont être plutôt de la famille du piquant. Les choux en général, mais le chou rave en particulier. Chou rave, c'est comme une abeille, mais c'est plus gros. C'est un peu comme la betterave. Voilà. Comme la betterave à vache. Et ces aliments-là, eh bien, pour qu'ils ont une nature fraîche, ces aliments, et si on veut qu'ils soient très efficaces pour les poumons et pour les intestins, et on va leur mettre en plus des condiments. On va les préparer avec de l'ail, on va les préparer avec de la ciboulette, avec du fenouil, des oignons, des poivrons, etc. La ratatouille. La ratatouille, c'est un plat qui permet d'apporter un équilibre aux poumons et aux gros intestins. Ce sont des plats tout simples, en fait, qui nous permettent. Et ce sont des plats de saison. Donc c'est intéressant quand même, ces plats de saison. Donc voilà, succinctement, voilà ce que je voulais vous dire. Alors, juste deux mots sur une saison qui va démarrer, là, c'est l'intersaison. L'intersaison, vous avez vu, donc l'intersaison, c'est la saison rate cancer à ce chemin. Mais que l'on peut en voir d'une autre façon en la mettant quatre fois l'année. Les Chinois nous disent, si on veut être en équilibre, il faut aller voir son médecin à l'intersaison. Donc, quatre fois l'année pour recaler, pour équilibrer. Voilà. Donc c'est simple. Si par contre vous avez vu le médecin à l'intersaison et que vous êtes malade pendant la saison qui suit, à ce moment-là, c'est de la faute du médecin. C'est pour ça que traditionnellement, les médecins se faisaient payer quand ils traitaient à l'intersaison, donc c'est pour empêcher les gens d'être malades. Et s'ils étaient malades, la saison d'après, ils ne payaient plus les consultations. Donc ça, c'est très rentable pour les personnes, et ça serait très bien d'instituer, ça éviterait le gouffre de la sécurité. Parce que nous, on a intérêt à ce que les gens soient malades. C'est quand même dommage. Bon, ça, peut-être qu'un jour ça viendra, on ne sait jamais. Alors, cette saison, cette intersaison, là, j'en parle rapidement parce que c'est pas aujourd'hui que je dois en parler, mais bon, comme elle est proche, elle est dans 10 jours, c'est une saison pendant laquelle donc on nettoie l'organisme. On le nettoie pour que. On arrive à la saison suivante, c'est-à-dire le 7 novembre, là, qu'on arrive en bon état. Pour que, à la saison suivante, le rein se recharge. C'est le rein, à ce moment-là, qui va se recharger. Donc, si on fait bien attention, dans cette période de l'intersaison, va préparer. Et la préparation se fait déjà par l'alimentation. C'est une période pendant laquelle, alors voilà, vous voyez dans vos oreilles, on supprime totalement tout produit laitier et toute viande, sauf le poisson et les œufs. Voilà. on supprime tous les produits laitiers, sauf le beurre. Ah, vous voyez, déjà, c'est bien. Hein? Mais le vrai beurre. Moi, je lutte contre le faux beurre. Hein? C'est-à-dire le beurre poitif, enfin, tous ces beurres qui ont des noms bizarres, hein, dans des boîtes bizarres, etc. Et, tout cela, c'est poubelle. Ça ne sert à rien, sauf à vous ponctionner pour planer. Le beurre n'est pas un aliment dangereux. Alors déchiré, évidemment. Hein. Alors, donc à cette saison là, qui va arriver, qui dure 18 jours, c'est pas compliqué. Donc on supprime tous les produits laitiers. Moi je dirais que ça m'est difficile parce que j'aime beaucoup le fromage. Donc les deux, trois premiers jours, c'est un petit peu difficile. Mais dès que j'ai passé cette période, après ça va, c'est fini, j'en parle plus. C'est très sympa. Mais on a vraiment l'impression d'un nettoyage, on a vraiment l'impression de se transformer à ce moment-là. Et je vous assure que c'est efficace. Voilà. Non, 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 pas de fromage. Le fromage est un produit laitier. Tous les produits laitiers, qu'ils soient de jument, de chèvre, de brebis, de chameau, de bovin, voilà. Tous les produits laitiers, on les supprime. On remplace par rien. Il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. Oui, attendez. Peut-être il y a quelqu'un qui veut poser une question.
Oula.
Et là, dans le fond à gauche. Oui, le beurre est un produit fait à partir de la crème, mais il n'est pas du tout absorbé de la même façon que tous les autres produits laitiers. Voilà, c'est pour ça que moi je garde le beurre et vous pouvez en prendre. Condition de ne pas le faire cuire. Non, il ne fonctionne pas le micro là-bas.
Ah si. Oui, c'est bon. Le poulet, c'est le seul responsable de l'énergie fossile, mais aussi, ou bien un autre organe qui est responsable de l'énergie dépense.
Alors, tous les organes jouent sur l'énergie dépense, mais le poumon, c'est le plus externe. C'est lui qui assure véritablement l'énergie dépense par excellence.
D'accord. J'ai une question ici. Attention aussi de contrôle sur le cœur par rapport au poumon. Est-ce qu'on va prendre le cœur comme une chaîne ou vraiment comme organe? Et quel type de pathologie on va avoir s'il y a un excès de contrôle, un manque de contrôle du cœur sur le poumon? Et pareil, dans le cycle de contrôle sur l'engendrement par rapport au rein. Si le poumon, la mère ne met plus le vif, quel type de pathologie on va avoir sur le rein?
S'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de contrôle du... Alors d'abord, pour qu'il y ait... Il faut différencier ce que je disais tout à l'heure, la contrôle et l'attaque. Hein? Une attaque, ça va se produire... L'attaque d'un organe, comme le cœur, par exemple, sur le poumon, va se faire si le cœur est chargé d'énergie perturbée, hein, si lui-même déjà est chargé d'énergie perturbée, et il va, à ce moment-là, attaquer. Donc, il aura tendance à démolir le poumon. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il va entraîner? Il va entraîner des problèmes respiratoires, des problèmes de peau, etc. Et Par contre, si le cœur est en bon équilibre, qui n'est pas chargé d'énergie perturbée, il va simplement assurer un contrôle. Or, un contrôle, c'est quand on contrôle quelqu'un, c'est pour lui permettre un équilibre. Donc, il y a deux choses différentes. Donc, il va améliorer le poumon à ce moment-là. C'est pour ça que la saveur amère va aider à ce moment-là le poumon. Donc, la deuxième question, c'était dans l'environnement, c'est-à-dire que le poumon engendre le rein. On nous dit que c'est la mère du rein, le rein est en tige. Bon, si le poumon est incapable de donner l'énergie au rein, à ce moment-là, le rein, lui, c'est l'organe aussi, c'est l'organe qui va donner l'énergie aux os, qui va donner l'énergie au système nerveux central, qui va donner l'énergie à plein de fonctions, tous les organes génitaux, tout ça. Eh bien, il va y avoir des pathologies, c'est-à-dire que la personne qui va, par exemple, avoir mal au dos, qui aura plein de problèmes. Voilà. Est-ce que je réponds à la question? Oui. Ce qu'il faut bien comprendre dans tout ça, et c'est pas toujours facile à comprendre, c'est pas toujours bien compris, même de ceux qui ont appris la médecine chinoise, c'est que c'est ce double système. C'est-à-dire que quand un organe est en équilibre, il ne va pas aller déséquilibrer l'autre. Vous voyez? Il est en équilibre, il ne va pas lui apporter des choses qui vont déséquilibrer, il est en équilibre. Par contre, s'il est atteint, s'il lui-même a des problèmes, or le cœur, c'est la joie de vivre. Si c'est quelqu'un qui a perdu la joie de vivre, par exemple, monsieur parlait du chêne tout à l'heure, le chêne, c'est vraiment l'esprit. Donc le cœur, c'est l'esprit, il faudrait qu'on vienne en haut, là. Bien, si le cœur n'a plus la joie de vivre, il est perturbé. Et à ce moment-là, il y a des chances qu'il attaque et qu'il aille essayer de démolir le poumon. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Autrement, s'il est en équilibre, il va simplement contrôler, il va assurer que tout se fait. Voilà. Il y a d'autres questions? Alors, la consommation du soja, du lait soja, etc. Est-ce que c'est considéré comme un produit laitier? Non. Mais il faut quand même se méfier du soja. C'est pas un anodin le soja. Le soja est considéré comme un phytoestrogène. C'est-à-dire, comme un équivalent d'estrogène en même temps. Là-dessus, il y a tout un tas de discussions. Mais les estrogènes dans le corps, en particulier, que ce soit chez la femme ou chez l'homme, d'ailleurs, c'est pareil, ont tendance quand même à agir sur nos organes génitaux. Donc, c'est pas anodin. En particulier, le soja, il faut éviter d'en donner aux enfants. Parce que l'enfant, en particulier avant l'âge de 10 ans, les garçons, par exemple, si le garçon a beaucoup, si on lui fait prendre beaucoup de soja, il va avoir des problèmes avec ses testicules. Et ça, c'est pas très bon. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, on ne sait pas ce que ça devient. Chez les femmes, la consommation excessive de soja, ça ne sera pas très bon vis-à-vis du cancer du sein, par exemple. Vous voyez, donc, une méfiance quand même avec le soja. Moi, quand on me pose la question, à la place du lait, qu'est-ce que je prends? Voilà, je dis du lait de riz. Avec le lait de riz, on n'a pas tous ces problèmes. Mais bon, le mieux, c'est de ne pas en consommer du tout. Et il faut prendre l'habitude. C'est comme quelqu'un à qui on dit il faut plus de sucre, qui va chercher des tas de trucs pour que ce soit sucré. Un jour ou l'autre, il y aura des ennuis. Il vaut mieux qu'il s'habitue à ne pas prendre de sucre, à ne pas avoir ce goût de sucre. Oui. Oui. Favorable au tendinite? Non. Non, non. L'automne n'est pas une période favorable au tendinite, pas plus qu'une autre saison, sauf si c'est quelqu'un, par exemple, qui prend un excès d'aliments gras. Oui, gras et chaud. Et à ce titre-là, il faut se méfier des choses, c'est les personnes qui font trop de barbecue. Quand on fait trop de barbecue, les barbecues, c'est souvent de la viande, même souvent des viandes grasses, c'est pas des choses comme ça. Et c'est extrêmement chaud. C'est ça, c'est quand même une source de perturbation au niveau du poumon et aussi, avant tout, le rate pancréatique. Et donc souvent après un été où la personne aura mangé beaucoup au barbecue, après un été comme ça, il va se payer des problèmes respiratoires, des problèmes tendineux aussi, voilà. Oui. Bien sûr, oui. C'est-à-dire c'est le gland du foie qui va être excessif.
Et la fatigue.
À la fatigue. Le poumon, ça j'en ai pas parlé spécialement, le poumon c'est l'organe qui répond le plus à la fatigue. La fatigue, c'est bon, il y a beaucoup de personnes qui se sentent fatiguées, et le poumon c'est vraiment l'organe qui répond le plus. Pourquoi ? Parce que cette énergie qui monte des aliments, là, qui vient des aliments, qui va au niveau du poumon, ensuite cette énergie va circuler dans tous les vaisseaux et dans tous les méridiens, partout. Donc cette énergie va alimenter la totalité du corps. Donc, ce que l'on fait, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait quand on a un bassin facile ? Du gingembre. Marquez-le bien, gingembre. Comment ? Pendant combien de temps le gingembre ? On l'utilise déjà tant qu'on est fatigué, mais également si on a une sensibilité, si par exemple vous avez dans les années précédentes fait des tas de rhumes, que vous avez du mal à en venir à bout, si cette fatigue s'ajoute également, le gingembre il faut pratiquement le prendre pendant l'année. Hein. C'est bien entretenir. Parce que là-bas, il y a un petit pôle. Non. Les huiles essentielles ne remplacent absolument pas le produit. Hein? Non. Les allergies respiratoires. Ouais. Les allergies, ça vient de là. Hein? C'est la même chose. Une allergie ne se déclenchera, l'allergie respiratoire, hein, le nez qui coule en permanence, ne se déclenchera que si le poumon n'a pas son énergie normale. Si le poumon a une énergie normale, l'allergie ne va pas se manifester. Un érysipèle, c'est une bactérie, après, c'est autre chose. Mais un érysipèle, c'est une maladie assez grave sur la peau, hein, qui est importante, et quelqu'un qui a eu un érysipèle s'en souvient, qui peut donner une forte fièvre, qui donne des douleurs importantes, etc. L'érysipèle, c'est une maladie sur la peau, donc qui intéresse le poumon quand même, hein, il y a une bactérie qui se reste, et les érysipèles, son origine, c'est rate pancréas, c'est un excès de sucre, c'est-à-dire c'est un terrain trop sucré, et certaines personnes font des érysipèles répétitions. Eh bien, la seule chose à faire pour l'éviter, c'est d'arrêter le sucre. Oui, gingembre en poudre, c'est bien. Oui, oui. C'est-à-dire que le gingembre, alors, les Chinois ont analysé un petit peu le gingembre. C'est le gingembre frais, hein, la racine. La racine de gingembre apporte du frais. Hein, c'est un piquant frais. Voilà. Alors que le gingembre en poudre, c'est un piquant tiède. Voilà, c'est la différence. Et quand on a besoin de frais, on va plutôt faire utiliser la racine. Quand on a besoin de plutôt de tiédeur, comme en ce moment, par exemple, on a besoin du tiède, on va plutôt utiliser la poudre. Et pour que la poudre de gingembre soit efficace, on ne la fait pas chauffer. On ne la fait pas chauffer, on la met sur l'aliment une fois qu'il est chaud dans l'assiette. Alors, on rentre dans autre chose, mais l'allergie au gluten, c'est... D'abord, l'allergie au gluten, pour moi, elle n'existe pas. C'est une intolérance au gluten, c'est pas une allergie. Et c'est une intolérance qui vient, ça on verra ça, on a vu ça déjà la dernière fois avec l'été, c'est une intolérance qui est liée au fonctionnement de l'intestin grêle. C'est-à-dire que notre intestin grêle, qui fait partie, lui, de l'été, Et bien, l'intestin grêle, en se dans sa paroi, c'est une véritable usine chimique qui nous permet tout un tas de transformations, etc. Et il y a des passages qui se font dans la paroi avant de passer dans le sang. Et ces passages, quand ils sont sales, quand ils sont abîmés, etc., parce qu'on a utilisé trop de produits, parce qu'on a utilisé trop de viande rouge, parce que, enfin, beaucoup de choses, on a eu des pesticides, des insecticides, etc. Après, n'est plus capable, notre cerveau n'est plus capable à ce moment-là de dégrader le gluten, et dans ces cas-là, le gluten va passer, va commencer à passer, et donc entraîner des perturbations. Donc c'est une intolérance. La véritable allergie au gluten, c'est la maladie au gluten, c'est la maladie qui déclenche le délai de 4-5 mois quand on lui met une farine contenant du gluten. Et à ce moment-là, il déclenche une maladie grave, puisque au bout de 3 semaines à mois, il ne sourit plus, il ne va pas pouvoir marcher, il y a plein de choses. C'est une maladie fréquente quand même. Hein. Mais donc il ne faut pas parler d'allergie. Hein. C'est une intolérance, alors qu'il y a c'est plus ou moins important. Et on peut les améliorer, ces anomalies-là. Condition de nettoyer régulièrement l'intestin grêle aux intersaisons. On en revient toujours à l'intersaison. Et là, il faut être sacrément vigilant. Hein. Et quand on a une intolérance au gluten, pas de pain. Ça, il faut supprimer le pain. Il faut manger du riz. Alors, est-ce que par l'alimentation, on peut se prévenir de la grippe ou des syndromes grippaux ? C'est une question vaste. Et, bon, l'alimentation va nous aider au niveau poumon gros intestin. Donc si on a un bon équilibre poumon gros intestin par l'alimentation, on ne va pas être sensible à la grippe ni au gastro. C'est pas vrai, bon. Parce que la grippe, le virus de la grippe, il va nous faire des dégâts que si on a un déséquilibre de l'organe en dessous. Voilà. S'il n'y a pas de déséquilibre de l'organe, la grippe, le virus, vous allez l'avoir dans la bouche, vous allez l'éliminer. Il n'y a pas de problème. On ne va agir que chez la personne dont l'énergie du poumon et du gros intestin est faible. Donc on peut se prévenir de la grippe par l'alimentation.
Je peux demander pour le jeûne.
Okay. Alors là, on rentre dans autre chose. Hein. Pour
vous répondre comme ça tout à l'heure si vous voulez, mais on n'est plus dans le même cadre. Hein. Bon, c'est important hein, de s'en amener dans autre chose. Une cuillère à soupe. Oui. Alors, on pose la question, parce que j'ai dit l'autre fois, puis j'ai dit ceci à d'autres conférences, le rôle du demi-citron dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. Le demi-citron dans une cuillère à soupe d'huile d'olive, son rôle, c'est de nettoyer les voies biliaires, les canaux biliaires. Donc, il va nous aider lorsque le foie et la vésicule ont des problèmes. Lorsque il y a une insuffisance de production de la bile, à ce moment-là, un mauvais écoulement dans les voies biliaires, ou lorsque la vésicule a beaucoup de difficultés pour éjecter la bile. La vésicule, c'est jamais qu'un sac qui, au moment où on mange, va éjecter la bile vers la sortie de l'estomac. Et s'il n'y a pas suffisamment de bile, c'est comme dans un tuyau qui il y a un écoulement qui est insuffisant, il va se recracher plus vite. C'est pareil, le rôle du citron et de l'huile d'olive, c'est pour nettoyer ça. Alors, combien de temps on le fait? Quelqu'un qui a une fragilité de ce côté-là, moi je lui fais faire une fois par semaine ou trois jours par mois. Trois jours de suite par mois ou une fois par semaine systématiquement. Voilà. Et ça nettoie. Et même si quelqu'un qui a été opéré de la vésicule, le problème il n'est pas réglé. Voilà, on a enlevé les calculs, on a enlevé la vésicule et les calculs, mais le mécanisme qui a conduit à ce que la vésicule soit pleine de cailloux, il est toujours le même. Donc, on aura un jour ou l'autre d'autres problèmes. Et si on nettoie, si on prend la précaution de faire ça, ce système avec le demi-citron et les olives, eh bien, ça nettoie et on est tranquille.
Les calculs rénaux, alors, les rénaux, le fonds de sclérite
et oui, mais là, c'est.
Dans l'origine, c'est quoi?
C'est autre chose.
C'est quoi?
L'origine?
L'alimentation qui.
Bien sûr. Bien sûr, c'est l'alimentation aussi. Et en même temps, c'est une famille qui ont la possibilité, l'inconvénient de faire des calculs dans les reins. Jusque-là, on n'a jamais trouvé de gènes. Mais il y a des familles entières qui font des calculs critiques. Donc il y en a sûrement. Et faire des calculs critiques, c'est parce que à ce moment-là, on a trop de déchets acides. Et tous les calculs rénaux sont des acides. Et un bon moyen que je fais faire pour éviter ça, quand il y a eu des coliques néphrétiques, eh bien, c'est d'arroser tous les légumes dans l'assiette, systématiquement, vous arrosez avec quelques gouttes de citron. Car le citron, c'est un acide, et qui combat les acides dans le corps. Voilà.
Vous avez parlé des crudités qu'il fallait faire chauffer 2 minutes à la poêle.
Oui.
On va chercher dans le jardin des petits.
Oui.
Je pense qu'il y a des vitamines quand même qui sont intéressantes. Alors qu'est-ce qu'elles deviennent qui sont.
Ça n'enlève pas les vitamines. Parce que c'est très rapide.
Oui, il faut que ce soit effectivement très rapide.
Mais... Oui, c'est très rapide. On apporte simplement, on enlève le froid. On enlève le froid de ces aliments.
Mais ce sont à température en été, ou en été, je parlais de cette saison.
Alors c'est surtout à cette saison-là. C'est surtout à cette saison. Parce que en plein été, quand il y a de la chaleur, on peut sans problème manger. Bon, une couche blanche, on ne va pas faire cuire la tomate. On va manger
certaines crudités, ou enfin, il y a comme des angines, des éléments. Il y a sensible de la chaleur, quoi.
C'est sensible, mais on va pas les faire chauffer bien longtemps. C'est simplement pour enlever ce froid. C'est un des grands maux de notre époque, ça, hein, le froid, parce que ce froid, on en a besoin à cause des frigos. Hein. On met beaucoup de choses dans les frigos et dans les chauffants. Et voilà. Et plus on a magasine de froid ensuite dans notre organisme, plus il y a un ralentissement au niveau de nos organes. Et ce ralentissement, il est perturbant quand même pour le fonctionnement des organes. Un organe qui est ralenti, ben le poumon, quand il est ralenti, ça va créer des mucosités, des sapés, un tas de choses. Le cœur, c'est pareil. Alors j'entendais une question, le cholestérol, qu'est-ce que vous voulez parler de quoi? Quand on a du cholestérol, c'est sans intérêt. Quand on a du cholestérol, il ne faut surtout pas prendre des produits contre le cholestérol. Le cholestérol, si vous voulez le combattre, première chose, arrêter les produits laitiers. Vous stoppez tous les produits laitiers et vous verrez votre cholestérol, il va s'équilibrer. Et les produits laitiers, on en consomme quand même pas mal. Hein, parce que moi, bien des fois, je vois des personnes qui me disent ben oui, vous arrêtez les produits laitiers. Bon, je n'en prends quasiment pas. Je dis vous ne faites jamais de gratin. Vous mettez de la crème fraîche, vous prenez un peu de temps en temps un yaourt, parfois un peu de fromage, etc. Et bien ça finit par s'additionner quand même. Hein? Y compris les yaourts à 0%. Les yaourts à 0% vous apporteront autant de problèmes que les autres. Pour la glande, pareil.
Pour le calcium.
Pour le calcium, écoutez qui pose la question.
Les os aussi.
Ça ne sert à rien. Les produits laitiers ne servent à rien pour les os. Ce qui nous permet d'avoir ce qui est important pour nos os, ce sont les fruits secs et les légumineuses, telles que les lentilles, les mollesques. Hein, mangez des mollesques, ça vous consolidera vos os. Hein, les lentilles, les pois cassés, mais les produits laitiers, après l'âge de 3 ans, notre corps ne peut plus utiliser le calcium que dedans. Il ne sait plus faire. Donc tous les produits laitiers qu'on va prendre, bon, quelquefois c'est agréable de prendre un produit laitier, ça va mieux aussi, je ne sais pas. Mais tous les produits laitiers qu'on va prendre, on ne va pas les utiliser pour le calcium du tout. Par contre, l'intestin grêle, il ne va pas les aimer. Hein. Et ça va le perturber. J'entends pas. J'ai pas entendu la question.
Il y a où pour les brebis?
Oui. D'accord. Non, c'est pas la même chose. Le lait de produit, même le lait de chèvre, n'a pas du tout la même importance vis-à-vis, par exemple, du cholestérol. Et à la limite, on peut les utiliser sans excès, mais on peut les utiliser. Par contre, quelqu'un qui a du cholestérol, je lui fais supprimer complètement tout ce qui est à base de bovin, de lait de vache. Oui. Sans excès. Tout excès conduit à son contraire. Oui. Est-ce que l'alimentation peut jouer un rôle sur l'état de fatigue? Hein, c'est ça. Malgré un bon sommeil. Oui, le sommeil correct. Et bien sûr que l'alimentation peut jouer un rôle. Parce que l'alimentation va équilibrer certains organes quand même. Et en premier lieu, le poumon. se pencher. C'est, le poulet, c'est quasiment le premier qui va avoir l'équilibre par l'alimentation. Donc quand on est bien fatigué, première chose à faire, du piquant. Et donc du gingembre, etc. Et également des boissons chaudes. Oui, les appareils pour filtre et l'eau, honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais vraiment pas quoi en dire. Bon, ils sont intéressants pour éviter qu'on ait trop de calcaire, hein, mais bon. À mon avis, il ne faut sûrement pas prendre que ça. Parce que, bon, le charbon, c'est pas non plus entièrement inoffensif.
Vous avez parlé tout à l'heure du miel et de la céréale, le pollen.
Oui, le pollen, est intéressant aussi parce que lui, il va agir déjà une chose très importante sur le gros intestin. Le pollen est très intéressant. Mais attention, le pollen ne se prend pas au printemps. On ne peut pas le prendre au printemps. Alors, à l'automne, très bien. En automne, hiver, très bien. Un peu en été. Mais surtout pas au printemps, parce que le pollen que l'on peut prendre, plus le pollen qui existe dans la nature, ça va faire un effet. Voilà. De la propolis, après, c'est plus un désinfectant. La propolis, ça nous permet de traiter des pathologies, des infections. Voilà. La propolis, c'est très utile aussi. Ouais. De toute façon, les abeilles nous apportent beaucoup de choses intéressantes. Hein.
Est-ce que vous pensez des monodiètes du type la cure de raisin et dans ce cas à quel moment de l'année, enfin pour le raisin en chêne, mais pour une monodiète?
Alors moi personnellement les monodiètes je ne les fais pas longtemps. Je trouve qu'il faut les faire vraiment pour que ce soit contrôlé. Parce que faut quand même faire attention à ce qu'on fait dans ce domaine. Mais bon, je n'ai pas une expérience très importante dessus sur le monodiète. Moi, j'ai plus d'expérience sur les jeunes, les jeunes, par exemple, dans le cadre du cancer, etc. Et ça, j'ai une expérience là-dessus. Mais les monodiètes, la cure de raisin, par exemple, ce que je sais, c'est que c'est plus efficace au moment du raisin, quoi. Hein, c'est pas la peine d'aller faire une période où les raisins ne sont pas là dans la nature. Mais bon, maintenant, bon, je vois des personnes qui sont très bien en faisant chez Melodia, donc c'est sûrement quelque chose d'intéressant. Mais je ne peux pas en dire plus.
Je voulais vous demander au sujet du petit lait de chèvre, s'il vous plaît.
Donc, au sujet du petit lait de chèvre?
Oui.
Alors, je ne sais pas. Le petit lait, c'est ce qui reste quand on a enlevé la canne.
Oui, voilà. On va redonner aux animaux, apparemment, il y a des propriétés particulières.
Alors,
c'est pas ça, ça n'a rien à voir. C'est le lait crémé. Le lait crémé. Le lait crémé contient du damadol.
Oui, oui.
Avec le damadol, avec le chien, on peut faire du beurre. Donc, lui, par la moustillère, on trouve que c'est du baratte.
D'accord. Oui.
On appelle
le
babeur.
Oui.
Le babeur,
il serait
le babeur de
chèvre. Oui, je comprends bien, mais le babeur, il est là, je ne sais pas
si
vous.
Ça ne veut rien dire du tout, parce que c'est une dénomination qui englobe tous les sous-produits, si vous voulez, du lait.
D'accord.
Comme les lactotyrones, par exemple, quand on
parle
en fromage.
Oui.
Le lait, en réalité,
ce n'est
pas
un terme
qui
n'est
pas.
Ce n'est pas
adapté. Comme on appelle les gosses, on appelle les crèmes, ça ne veut rien dire du tout. Vous avez les crèmes activités et les crèmes qui ne le sont pas.
Non, non, mais moi j'apprends aussi. Hein. Je ne connais pas tout. Je n'ai pas d'expérience là-dessus, je ne sais pas.
Effectivement, les poissons utilisent boivent leur petit lait, brûlé traditionnellement, avec la graisse.
Parce que
vous avez une boisson, si vous voulez, qui est quelque chose de assez complet, et qui est légèrement acidifié.
Ce qu'on appelle le petit lait, enfin, moi dans mon enfance, hein, moi j'en ai vu, hein, le petit lait, moi j'apprécie, j'aime beaucoup. Mais bon, quel est son intérêt, j'en sais rien. Voilà. J'ai peut-être une expérience là-dessus, je ne sais pas. Oui. Bien, dans de nombreuses maladies, on peut faire un jeûne. Ça permet de mettre les organes au repos, de faire un jeûne. Alors, ça, dans le domaine du cancer, là où j'ai l'expérience, c'est dans les moments de chimiothérapie. Bon, par exemple, supposons que demain vous ayez une chimio. Aujourd'hui, on fait un jeûne, demain et après-demain. On fait 3 jours. Alors, c'est un jeûne pas total. C'est-à-dire qu'on va manger, en guise de repas, on mange une tranche de pain d'épeautre avec une boisson chaude. Voilà. Et c'est tout. Et on le mange très lentement, ce pain d'épeautre, pour que. Puisse rassasier un peu. Et cette technique-là permet à l'organisme de se retrouver avec un certain manque de sucre. Il va aller chercher dans ses réserves, il va mettre en mouvement un certain nombre de cellules qui vont être riches en sucre. Et au moment de la chimio, comme elle est une tropisme, si vous voulez, elle est attirée plus vers les cellules qui ont du sucre. La chimio va être extrêmement efficace sur les cellules malignes. Il va laisser les cellules saines. Et c'est le rôle justement de ce jeûne, c'est de pouvoir protéger les cellules saines, donc de permettre à la personne une défense de meilleure. Et le deuxième avantage, c'est qu'on a remarqué que la personne qui fait ce type de jeûne, ça diminue au moins de 60 à 70% des effets secondaires. Donc c'est quand même intéressant. Et moi, j'en ai l'expérience, c'est quelque chose que je préconise et qui véritablement marche bien. Voilà. Une par repas.
Bonjour, alors ma question
peut-être
c'est lorsqu'on voyage, ou qu'on part dans le champ quand on a un travail, si c'est l'été en France et là-bas on part en hiver, comment on doit manger les choses là-bas quand c'est l'hiver, ou enfin, je suis une question pour être tremblée des organes.
On suit là où on est. Hein, si on y va 8 jours, c'est pas la même chose. Mais si quelqu'un part plusieurs mois dans un endroit où en Afrique du Sud en ce moment, c'est pas l'automne, hein, ça va être le printemps. Donc les saisons sont inversées. Donc ce sera l'alimentation du printemps. Et à condition de rester quand même un certain temps, parce qu'on ne va pas tout modifier notre alimentation comme ça. Et puis il y a l'alimentation du pays aussi qui est importante. Hein. Parce que les gens du pays auront un pic d'aliments, une alimentation qu'on n'a pas forcément nous. Par exemple, en Afrique, proche de l'Équateur, les personnes qui y vont se rendent compte que s'ils mangent occidental, eh bien, ils se payent des diarrhées, pas possible, qu'on appelle la tourista. Hein? Et bien pourquoi? Parce qu'ils ne mangent pas le type d'alimentation qu'ont les autochtones. Ça, c'est quelque chose d'important. Vis-à-vis de la chaleur, si on veut lutter contre la chaleur, hein, parce que la chaleur humide des pays tropicaux, il faut manger des aliments piquants. Il faut là utiliser les choses qu'ils utilisent eux. Et à ce moment-là, on n'a pas la touriste. Non, mais on passe à côté si on utilise ce type d'aliments. Autrement, on passe pas à côté. Oui. Les groupes entiers qui étaient couchés par le réservé.
On avait bien dit le soir qu'on avait mangé, tout le monde pensait qu'on nous avait traqué et qu'on avait mis quelque chose.
Alors, c'est
déjà
tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous dire. Il est là pour vous répondre, le père Rousseau. Je ne vais pas avoir de réponse.
Oui, ça pense du bien. Ça pense du bien. C'est un produit qui améliore les défenses de l'organisme. À prendre quand? Quand on a une certaine fragilité immunitaire. Il ne faut pas le prendre quand on n'en a pas besoin. Et puis, il ne faut pas le prendre pendant des durées très longues. Alors moi, j'ai toujours partisan vis-à-vis de tous les produits comme ça qu'on utilise, de ne les utiliser que 3 semaines par mois. On utilise 3 semaines, on arrête 1 semaine. On peut recommencer 3 semaines, on arrête 1 semaine. C'est quelque chose d'important. C'est valable avec toutes les plantes. C'est quelque chose de, parce que on a un phénomène d'accumulation qui se fait et au bout d'un certain temps, il n'y a plus aucune efficacité. Alors que si on stoppe, on le fait dans 21 jours, on arrête le reste du mois, on reprend, là, on a toujours la même efficacité. Le chlorure de potassium. Plutôt le chlorure de magnésium. Oui. Le chlorure de magnésium, c'est un bon produit qui va donner un peu d'énergie, mais qui en même temps va permettre à l'intestin de mieux fonctionner. Voilà, donc c'est bien, mais c'est pas à prendre tout le temps. Les probiotiques. J'en ai pas parlé, les probiotiques. Mais les probiotiques, notre intestin contient des germes. Il contient des germes qui, à l'état normal, sont en équilibre. Et ces germes-là, il ne faut pas les déséquilibrer. Si on prend un antibiotique, par exemple, l'antibiotique va de toute façon attaquer certains microbes, certains germes dans l'organisme, qui vont donc être diminués ou supprimés. Mais comme il y a un équilibre qui existe, les autres vont se mettre à augmenter. Et à ce moment-là, ils vont créer d'autres troubles, d'autres pathologies. Donc les probiotiques, leur rôle, c'est de faire retrouver l'équilibre des bactéries et des levures dans l'organisme. Voilà, c'est le rôle. Alors moi, je conseille toujours de prendre des probiotiques à l'entrée de l'automne, comme ça, au mois de septembre. Parce que c'est un moment privilégié pour nous permettre de vraiment équilibrer. Dans les probiotiques qui sont à l'intestin, ce que sont les rééquilibrants des phosphétiques ou phosphétiques, c'est pareil. Hein. C'est la même chose. Si une phosphétique n'a plus de bactéries, elle ne sera rien. Elle va se boucher et puis tous les 4 matins, elle va faire appel aux vidangeurs. Alors bon, enfin, on a des habitudes, il y a des marques qu'on aime plus que d'autres. Là, bon, je ne fais pas de pub parce que là, je ne dirais pas celle que j'utilise. Mais j'utilise des probiotiques. C'est vrai. Ils sont plus pratiques les uns que les autres, les unes que les autres. Oui. Oui. J'ai pas beaucoup d'idées là-dessus. Je connais, mais on m'a déjà posé la question d'autres fois, et je ne sais vraiment pas quoi dire par rapport à l'argent que je lui donne. Honnêtement, je ne sais pas. Il dit beaucoup de choses dessus. Il y a plusieurs produits comme ça, je ne peux pas me faire une idée. Il y a aussi l'aloe, par exemple, hein, l'aloe vera. Enfin, l'aloe vera. Honnêtement, ça semble être efficace sur tout. Donc, quelque chose qui est efficace sur tout, moi, je le méfie. Ah oui, c'est difficile de se faire une idée. Là. Oui.
Oui, par rapport aux probiotiques, je suis encore revenu juste deux secondes dessus. Ceux qu'on peut cultiver naturellement, de type le kéfir, est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, c'est bien. C'est bien le kéfir. C'est quelque chose d'intéressant. Hein. Tout ce qu'on peut comme ça faire soi-même, c'est intéressant.
Hein. On arrête aussi une semaine par mois.
Il ne faut pas en prendre tout le temps. Oui. Oui, par rapport à la vitamine D, vous voulez savoir? Est-ce qu'il faut prendre de la vitamine D toute l'année? Non. Non, parce qu'on a au niveau de notre peau, et c'est là où il faut que la peau soit quand même en bon état et qu'il n'y ait pas un tas de pommades de mise dessus. Au niveau de notre peau, en dessous de la première couche de la peau, on a des espèces de plaques qui sont des pro-vitamine D. Hein, on appelle ça des pro-vitamine D. Et les gens ont besoin, pour devenir de la vitamine D, ils ont besoin du soleil. Et ces plaques ne sont atteintes que par le soleil quand il est droit. Donc en ce moment, par exemple, le soleil, il n'est plus droit du tout, il est plus vers l'horizon, hein, il va plus être zénith. Hein. Donc on n'a plus la possibilité d'avoir ce rayonnement solaire sur la peau qui va nous aider. On aurait beau vous exposer en ce moment au soleil, vous n'aurez absolument pas sur les questions de vitamine D. Alors que vous voyez, là, oui, il y en a. Donc, entre le mois de, je dirais, début mai et le mois de septembre, c'est inutile d'en prendre. Même quand on est carencé. Parce que ce qui est apporté par le soleil, cette fabrication qui est faite par le soleil est bien plus importante que celle qu'on va prendre en ampoule. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, je vais quand même faire là, dire quelque chose qui va en étonner certains. Je lutte contre un produit chez UV-Dose. Parce que c'est fait à partir du pétrole. Dedans, voilà, et c'est cancérigène. Hein? Voilà. Alors que il existe toujours le stérogène. Le stérogène de notre enfance, de vos enfants existe toujours. En ampoule et en produit naturel. Alors, produit naturel, eh bien, à partir de maintenant, à partir de octobre jusqu'à Pâques, l'idéal, c'est de prendre du foie de morue. Vous allez à votre supermarché et vous achetez du foie de morue. Comment ? Prenez dans le micro.
Toujours sur l'intestin, on parle de nettoyage de l'intestin avec du charbon végétal activé ou super activé. Alors
Alors le charbon va être fait par curie. Le charbon il va être efficace sur le gros intestin, mais très peu sur l'intestin grêle. Et sur le gros intestin, oui, ça, il est efficace, et ça j'en ai une longue expérience, et en particulier dans le diverticule. Les diverticules de l'intestin qui font une saloperie, qui est une source de problèmes chez beaucoup, beaucoup de personnes. Ça va être une source de douleur, une source d'infection, enfin bon. Il suffit tout simplement de prendre tous les mois, 5 jours de suite du charbon, bien pris, en faisant matin, midi et soir. On le fait 5 jours, tous les mois, systématiquement. Ça permet de nettoyer les diverticules dans lesquels s'amassent des matières. Vous savez, dans un diverticule, vous pouvez retrouver des matières qui ont 1 an ou 2. Alors un jour, ça s'infecte et ça finit par faire d'abord une douleur, puis de la fièvre, et ça peut faire forer l'intestin. Donc c'est pas un odeur, les diverticules. Mais le charbon, c'est l'idéal pour ça. Alors, en prenant une précaution, parce que le charbon constipe. Donc, il faut veiller à ce moment-là à prendre des aliments comme les épinards, comme les betteraves rouges, comme les noix, etc., qui vous permettent d'accélérer le fonctionnement de l'intestin.
Est-ce qu'il y a des questions encore? En vrai, vous répondra à un qui est là pour ça.
Il y en a une là-bas.
Oui, vous parliez tout à l'heure du citron, prendre régulièrement du citron, c'était très bon pour la santé, mais est-ce que ce citron peut aussi le remplacer par du vinaigre ou du cidre?
Oui. Oui, mais pas dans le... Pas avec... quand on met citron et huile d'olive, ça ne marche pas. Mais quand on prend une goutte de citron, par exemple, pour améliorer le foie, une goutte de citron avant le petit déjeuner, sous la langue, on peut très bien mettre une goutte de vinaigre. C'est l'acide qui importe.
Vinaigre de cidre, c'est meilleur.
Vinaigre de cidre, c'est très bien.
Le meilleur moment pour prendre
l'huile d'olive
avec les citrons.
À quel moment? C'est le matin, un quart d'heure avant le petit déjeuner. Il faut donner le temps au produit d'arriver et de nettoyer. Voilà. Et on a vraiment l'impression d'un nettoyage.
L'histoire de 21 jours, est-ce que c'est
fait
à cette histoire,
à cette
réduction du traitement
de la cure? Oui, des médicaments. Ça dépend, parce que quelqu'un qui a un traitement contre l'hypertension, si on lui saute 10 jours de traitement, ça ne va peut-être pas être très bien. Mais. Même au niveau de la sécu, ils ont conçu, il y a quand même maintenant une bonne quinzaine d'années, des boîtes de 28 comprimés. Parce qu'ils considèrent qu'on peut très bien sauter 3 jours par mois de traitement, même pour le cœur, même pour la tension. Ce qui, à mon avis, est une bêtise, mais bon, ça... Mais je crois que non, il faut quand même faire attention aussi à ce qu'on fait. Moi, j'ai bien dit, c'est au niveau des plantes essentiellement, que c'est... Parce qu'il y a un phénomène d'accumulation.
Il y a des questions encore? N'hésitez pas,
oui, oui. Oui. Oui, c'est la même chose.
C'est la même chose.
C'est la même chose. Quand on a la gorge enrouée, enfin, encombrée de mucosités. Les mucosités de la gorge, c'est les mucosités des voies respiratoires. c'est le poumon. C'est bien. L'hydrothérapie du côlon, c'est là. Oui. C'est une technique qui nettoie véritablement bien le gros intestin. La constipation, c'est pareil, il faut refaire l'énergie des poumons. La constipation, c'est le gingembre. Vous allez être obligé d'en prendre. Hein. En poudre, très bien. On a partout. Hein.
Termine la séance. On remercie le docteur Rousseau pour tout. Je vous remercie de votre attention. Je vous demanderai si vous pouviez emmener votre chaise, l'emmener sur le côté, en vous plaît.
Ça vous dérange pas.